Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo, un premier coup de cœur ciné dans quelques instants avec Nouveau Monde, le film de Vincent Capello qui sortira dans les salles mercredi. À cette occasion, Vincent Capello, Zoé Marshall, Chander Fontek, Héroïd Raimi seront nos invités exceptionnels pour en parler. Et puis en fin d'émission, deuxième coup de cœur ciné cette semaine avec Elle et lui et le reste du monde. Emmanuelle Belloraski, la réalisatrice, et Victor Belmondo seront nos invités exceptionnels pour en parler. Notre coup de cœur télé aujourd'hui avec le Duplex, pièce de théâtre qui sera diffusée demain soir sur France 2. Pascal Légitimus, l'un des protagonistes, viendra tout nous dire. Manon Chevalier alias Zoé dans Plus belle la vie, la fille d'Ariane, viendra également tout nous dire sur son arrivée dans la série. Et puis on parlera également humour aujourd'hui avec Pierre Thévenoud qui est en spectacle actuellement à Paris, qui sera en tournée partout en France et dans la région en début 2025. On va vous donner toutes les dates de ces rendez-vous. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui. Dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on va parler du film Nouveau Monde qui sort en salle. C'est notre coup de cœur ciné cette semaine, un film de Vincent Capello qui est justement aujourd'hui notre invité. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Un habitué de la région en plus, merci d'être là. Et puis, il nous a ramené un joli cadeau, Zoé Marshall, qui est également une habituée de l'émission. Bonjour Zoé.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. Nouveau Monde avec un sujet important, celui des réfugiés, dont on va parler dans le film. Mais déjà, première question, Vincent, comment est venue l'idée ?
L'idée est venue, en fait, à l'époque, j'intervenais, moi je suis scénariste à la base. J'animais un atelier de théâtre à France Terre d'Asile avec plein de jeunes réfugiés mineurs. Et j'ai commencé à les fréquenter et à m'attacher et à devenir même ami avec eux. Et j'ai tout de suite été fasciné par leur capacité à être à Paris, à des milliers de kilomètres de chez eux, d'avoir traversé les terres et les océans, et d'être debout à apprendre une langue, des mœurs et des comportements qu'ils ne connaissent absolument pas. Avec courage, dignité
et volonté
et parfois joie, même beaucoup de joie, et j'avais envie de parler de ce film. Et un jour j'ai fait faire une impro à Rohit Raimi, qui était un jeune afghan à l'époque qui parlait que anglais, et tout à coup il a joué, voilà, j'ai hurlé de rire tellement il était bon. Puis une deuxième impro et puis j'ai compris qu'il était acteur. Et quelques jours plus tard, je lui ai...
Lui, il le savait ou pas ?
Lui, en fait,
c'était un acteur qui s'ignore, comme on dit.
Non, c'était pas un acteur qui s'ignore vraiment. Parce que il avait cette passion du cinéma. Moi, quand je l'ai vu jouer bien comme ça, je lui ai dit, mais t'es acteur, toi. Il m'a dit, bah oui. Je lui ai dit, pourquoi tu me l'as pas dit ? Il m'a dit, tu me l'as pas demandé.
On va y en parler, parce que Rohit, on va l'accueillir avec Sander Fontek, justement, juste après aussi.
Génial. Et du coup, oui, il avait joué. Bah, il est parti très jeune de l'Afghanistan, mais il avait participé à un atelier théâtre. Il avait joué dans une pub. Enfin, je sais pas exactement ce qu'il a fait en Afghanistan, parce qu'évidemment, j'ai jamais vu les images. Il est parti sans. En revanche, quand il a traversé l'Europe à pied en Slovénie, il a joué dans un court-métrage sur les réfugiés. Donc il, voilà, en fait, il a fait quelques mois d'hôpital parce qu'il y a eu des problèmes dans la traversée. Il s'est fait agresser par des gens et quand il était à l'hôpital, quand il a commencé à aller mieux, il a demandé une télé et il a regardé. Il n'arrête pas de regarder des films. Et le docteur lui a dit mais c'est quoi, pourquoi tu regardes, c'est quoi ton truc là? Il dit moi j'aime le cinéma, je veux faire du cinéma. Et le docteur lui dit écoute, mon meilleur ami est réalisateur, je vais te le présenter. Et c'est génial. Et du coup ils sont rencontrés et puis le mec lui a fait faire un court-métrage sur les réfugiés. Et Roïd avait envie de rester en Slovénie, mais il avait promis à sa mère qu'il s'arrêterait dans un pays où il pourrait continuer ses études, et en Slovénie c'était pas vraiment possible, donc il a continué le chemin. Et heureusement je l'ai rencontré au tout début où il est arrivé à Paris, quoi. La base de la base, c'est la rencontre avec Roïd, oui.
Alors justement, il y joue le rôle d'un jeune Afghan réfugié à Paris qui doit trouver du travail pour envoyer de l'argent à sa mère, comme c'est souvent le cas aujourd'hui pour les réfugiés. Et il se trouve racketté, menacé de mort à Kaboul par les talibans, sa mère en tout cas. Et les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. Évidemment, c'est un voyage sans retour, hein. Ça, on imagine bien pour eux et la difficulté que ça peut engendrer. Zoé, tu arrives à quel moment justement dans ce film et quel est ton rôle? Raconte-nous.
Alors, en fait, moi, l'histoire, elle a commencé. Moi, je connais Vincent parce qu'on a travaillé sur un autre projet ensemble, une pièce de théâtre que Vincent avait coécrit avec Amel Chabi et que Vincent mettait en scène. Donc, on s'est connus comme ça avec Vincent. Et donc, je me rappelle qu'on était en pleine répétition de cette pièce. Et donc, c'était au moment où Vincent allait donner des cours de théâtre à ses réfugiés. Et il m'avait proposé de venir avec lui découvrir cet univers. Donc, je suis venue volontiers. Et on a passé pas mal d'après-midi à faire des impros avec ces mineurs qui sont plus touchants les uns que les autres. Et en même temps, Vincent tournait son film, un peu à l'arrache, entre guillemets, si je puis dire. Et donc, du coup, un jour, il m'a demandé de venir tourner une séquence avec Roïd. Donc moi, dans le film, j'interprète le rôle de la prof de français. Et donc, je donne des cours de français à ces réfugiés. Et mon personnage est un peu plus proche de Roïd. Elle a une relation, je pense, un peu plus personnelle avec lui. Et donc, elle comprend un peu plus son parcours. Donc, elle va l'aider sur plusieurs choses.
Un attachement particulier entre les deux.
Exactement. Notamment la langue, le français, va lui apprendre le français et comment trouver de l'argent.
Alors justement, parlons d'argent. C'est une belle transition. Tu m'as dit juste avant de démarrer l'interview, Nouveau Monde, c'est un petit film. Avec petit budget, comment on fait pour monter un film justement comme ça?
Sur ce film, moi, j'ai fait le pari qu'on pouvait faire un film avec du désir, de l'énergie, de l'émotion et des êtres humains merveilleux.
Et pas trop d'argent.
Et pas trop d'argent. Je me suis dit, ça va compenser. C'est un peu naïf, c'est un peu utopique. Évidemment, j'ai monté une société de production. J'ai, comme réalisateur, tourné des pubs. J'ai tourné des choses. Et puis, je prenais une petite partie pour vivre. Et je réinvestissais dans le film. Évidemment, il faut un peu de budget. Et depuis qu'on montre le film, les réactions des gens me prouvent que, en fait, c'est possible avec très peu de moyens. Zoé aime bien citer Aurel San, qui dit...
Pour faire un film, on a juste besoin d'un truc qui filme.
Pas faux.
Et j'adore, je trouve ça génial. Et j'avais commencé le film quand j'ai entendu cette phrase de Aurel San, parce que voilà, je suis pas hyper au fait du hip-hop et tout ça, mais quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, mais en fait, je vais la mettre en exergue du film. En fait, c'est hyper important. Je pense que tout peut disparaître s'il reste des êtres humains, une caméra, un micro, et de l'humanité, et des émotions, et des histoires à raconter, on peut continuer à faire du cinéma.
On a Roïd, Raimi, justement, et Chandor Fontek qui vont nous rejoindre d'ici quelques instants pour la suite de notre spécial Nouveau Monde. Voici tout de suite la bande-annonce de Nouveau Monde en attendant.
Et sinon, à l'école, ça va?
Ouais. À l'école, ça va très bien, ouais.
Quoi? Tu travailles pas à côté?
Moi? Non.
T'appelles comment?
Roïd.
Chandor.
Et toi, Chandor?
Ouais, je m'occupe d'appartements Airbnb en ce moment. Mm-hmm. Tu peux m'aider à faire un peu de ménage, tu
veux? D'accord.
L'important, c'est que tu sois à l'aise. Mais arrête, on dirait Marlon Brando.
Ton frère, il est comment?
Elle est comme toujours, il ne change pas.
La tristesse, c'est-à-dire? Qu'est-ce que c'est pour toi être triste?
Joïd, non, j'adore mes frères. Si? Une femme que tu connais.
Et on continue à parler de Nouveau Monde. Merci à Vincent et à Zoé. Et Roïd, Raimi et Chandor Funtek nous ont rejoints justement. Chose promise, chose due. Bonjour Roïd.
Bonjour.
Merci d'être là et bonjour Chandor.
Bonjour.
Heureux de te retrouver également, on a eu l'occasion de se voir pour Cas Contraire il y a quelques années. Roïd, on vient de discuter justement avec Vincent, et c'est beau de voir que c'est justement ton expérience, et c'est tout ça qui a inspiré le film finalement, c'est ton histoire, tout ce que tu as pu lui livrer.
Oh oui, merci à vous d'être là aujourd'hui, ça me fait espérer vraiment jouer de ce film. Mais comme on a décidé, nous avons décidé de montrer la réalité en cadre de film.
Tu joues ton propre rôle en quelque sorte, c'est un peu autobiographique ou c'est romancé quand même?
C'est pas vraiment ma propre histoire, mais j'ai joué certains scènes, ça ressemblait un petit peu.
C'est inspiré?
Oui, ça avait inspiré à ma soir. Voilà.
T'as pas hésité une seconde quand Vincent t'a proposé justement de faire le film? Parce qu'il vient de nous livrer quand même que quelque part, t'étais acteur dans l'âme.
Oui, bah heureusement j'étais l'acteur en Afghanistan. J'ai joué dans certains courts-métrages, dans certains films. Et dès qu'il m'a proposé le film, bah j'ai réfléchi pendant 2-3 semaines et après j'ai leur répondu positif. Bah j'ai dit pourquoi pas. Mais apparemment je parle pas bien français. Mais il faut que tu m'aides à apprendre français. Il faut que tu m'aides pour pas être bizarre dans le rôle quoi ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Il faudrait ça va être positif. Elle m'a dit c'est bon, bah on y va.
Tu peux compter sur l'aide de la prof de français du film quand même, Zoé Marshall. Aussi, Chandor, on va parler aussi de ton rôle. Alors, qu'est-ce qui t'a plu, toi, d'abord, déjà, dans ce projet de Vincent? Qu'est-ce qui t'a fait y aller, en tout cas?
Écoute, moi, déjà, d'une, ce qui m'a plu, c'est Vincent tout court, parce que ça reste un ami et un type avec qui j'ai collaboré plusieurs fois sur certains courts-métrages. Et il m'a amené dans ce voyage sans que je sois entièrement conscient de ce que j'étais en train de faire, en fait. C'est surtout ça, l'idée. C'est-à-dire que c'est un truc qui a été fait, c'est un film qui a été écrit sur le tard, qui a été à la base une expérience qu'il a voulu faire avec Rohid et commencer à essayer de filmer, à comprendre quelle était l'idée de cadre et d'être complètement autonome quand il s'agit de faire un film. Et petit à petit, il s'est dit bon bah ça y est, j'ai lancé le truc trop loin. J'ai une responsabilité envers ce jeune homme et envers les acteurs que j'ai sollicités. Donc je dois aller au bout de ce projet quoi. Et donc il a finalisé un film qui pour moi est un des projets dont je suis le plus fier vraiment de tout ce que j'ai fait quoi. Bon, de ma petite carrière.
Oui, petite carrière. Enfin quand même, Chandor, c'est quand même une des étoiles montantes du cinéma français aujourd'hui. Le dis pas, mais moi je le dis parce que c'est vrai. Et on va parler de ton rôle quand même en quelque sorte. Après, moi c'est vrai, j'admire le parcours de Vincent là-dessus parce que il fait ce qu'il dit, et il dit ce qu'il fait, et il a été jusqu'au bout des choses. Et ça c'est voilà, c'est important. C'est pour ça qu'on aime bien accompagner aussi les gens qui vont jusqu'au bout des choses et jusqu'au bout de leurs rêves comme ça. Alors Chandor, t'as gardé le nom du personnage. Le nom du personnage c'est Chandor.
Mais alors justement, c'est parce que à la base on savait pas qu'on allait mener ce projet jusqu'au bout quoi. C'est-à-dire qu'il nous filmait, il nous donnait des situations, il nous donnait des scènes d'improvisation, ou de temps en temps il écrivait des séquences qu'il nous envoyait la veille. Il disait voilà, en gros c'est ça l'idée de la séquence. Et vu qu'on savait pas que si ce projet allait aboutir à un court, un long, etc., on s'est dit bon bah voilà, on n'a pas pensé à trouver un nom de personnage quoi. Donc on a dit bon bah appelle-moi Chandor et moi je t'appelle Rohit dans le film, et la question ne se pose pas quoi, tu vois. Et après c'était trop tard pour revenir, pour rétro-pédaler quoi, c'est-à-dire que les choses étaient déjà sur la carte mémoire quoi.
Qu'est-ce que tu peux nous en dire de Chandor? Comment tu le vois toi dans le film?
Je le vois comme je l'ai découvert, parce que pour le coup je savais pas, j'étais pas conscient encore une fois de ce que je faisais entièrement. Mais je le vois comme un mec de son époque, un jeune type débrouillard qui est dans la démerde, un vrai gars de la vraie vie dans toute sa complexité quoi, avec ses grandes parts d'ombre, avec son égoïsme et quelque part son empathie aussi quand tout d'un coup il s'agit de parler des choses voilà auxquelles tu peux pas être insensible si t'as un minimum d'humanité quoi. Donc c'est un mec vraiment en trois dimensions quoi. J'ai l'impression un type pas manichéen quoi, pas le mec, pas le grand héros blanc qui va sauver le jeune Afghan de sa situation, etc. Il y a un truc beaucoup plus complexe que ça, si tu veux.
Sur ton parcours à toi, Rohid, Vincent nous confiait il y a quelques minutes que tu devais pas arriver jusqu'en France. À la base, tu devais t'arrêter dans un autre pays, la Slovénie, si je me souviens. Et qu'est-ce qui t'a mené jusque-là, justement? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'arriver jusqu'en France? T'as dû être armé d'une volonté absolument indéfectible.
Mais comme vous savez que à l'âge de 15 ans j'ai quitté mon pays, bah j'ai traversé plus que 10 pays. Dans chaque pays que j'ai installé, la seule question que je leur posais c'était est-ce que je pourrais continuer mes études. À chaque fois la réponse elle était négative. Et après j'ai changé le pays. Bah vous voyez, j'ai avancé. Dès que la jour que je suis arrivé en France, avant j'étais au Slovénie, j'étais là-bas, mais comme les journées, mais l'étranger, je pourrais pas continuer mes études, bah, j'y reste là-bas, d'apprendre quelle langue, du coup, ça me plaît pas ça. L'essentiel, l'objectif, c'était d'avoir à continuer mes études. J'ai avancé là-bas, je passais l'Italie aussi, mais je pourrais pas continuer mes études en Italie aussi. Dès que je suis arrivé à la France, le premier jour que je suis arrivé en France, je l'ai pas trouvé vraiment en France, je me suis dit, mais c'est quel pays? Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des afghans, il y a des arabes. Il y a des mélanges dans le plateau qui ont pu ramasser, on peut mélanger comme les frères, comme les sœurs. Et la seule question que je l'ai posée là-bas dans les camps, je les ai posé la question, est-ce que je pourrais continuer mes études? Ils ont dit, bah oui, mais qu'est-ce que tu racontes toi? Bien sûr que tu pourrais continuer tes études. Bah, je me suis dit, voilà, c'est bon, c'est ma maison. J'ai trouvé mon pays, ma maison, j'ai trouvé tout ça. Voilà. Je choisis ici la France.
Finir tes études et vivre ton rêve de devenir acteur ici en France, parce que quand t'es parti d'Afghanistan, c'est ce que disait Vincent, t'as rien pu emmener de ce que t'avais fait là-bas, que ça soit les pubs, les choses comme ça, t'as pas pu emmener, on va dire, de témoignages, de diffusion, de choses comme ça. Donc aujourd'hui, vivre ce rêve de finir tes études et en plus de devenir acteur ici en France, c'est chouette.
C'est vraiment chouette, mais quand j'étais enfant en Afghanistan, j'avais plein de rêves, mais j'avais plein de choses là-bas, mais malheureusement, j'ai quitté tout, j'ai fui toute seule avec mes rêves. Les rêves, ça veut dire que j'étais riche. Et voilà.
Bon, moi, je vous invite en tout cas à découvrir Nouveau Monde avec Roïd, avec Chandor, avec Zoé Marshall. On a Sébastien Lalanne aussi. On a Jean-Claude Bobot aussi. Iris Bri. Il y a un super casting, donc allez voir ce film. C'est un petit film, comme on disait, hein, il y a quelques minutes, justement, aussi avec Vincent. Donc, c'est des films qui ont besoin, justement, que vous puissiez aller les voir et les découvrir, voilà, sur ces nouveaux regards, comme on peut dire, en tout cas, sur le cinéma.
Au-delà de ça, j'ai fait des grosses machineries qui avaient beaucoup plus d'oseille. Et quand on parle de petits films, il y a toujours un côté un peu, genre, où on s'excuse d'être là, etc. C'est le film dont je suis le plus fier. C'est un grand putain de film et c'est la première fois que je me permets de sortir de toute fausse modestie à deux balles. Je suis fier de ce putain de film. Allez le voir, c'est hyper important, vraiment. J'ai pas vu une personne qui a pas passé un moment significatif, quoi. Donc vraiment, je le défendrai, mais je crierai sur tous les toits pour que les gens aillent voir ce film, vraiment.
Merci Chandor.
Je vous en prie, merci à vous.
Merci Roïd.
Merci à vous. En fait, j'ai un truc à dire pour la dernière phrase, pour les Français et les Françaises. Mais si vous n'avez pas, si vous savez pas quoi faire à votre vie, dans vos vies ou à votre enfant, faut absolument regarder le film et après vous voulez savoir votre objectif et après vous le trouverez votre objectif. N'est jamais abandonné dans votre vie. Voilà.
Beau mot de fin. Nouveau Monde au cinéma. Voici tout de suite un petit extrait.
Si tu bosses, tu gagnes de l'argent, c'est fini. Tout ça, c'est terminé.
Tu t'appelles Iris, c'est ça?
Iris. Bah oui, Chandor, il m'a parlé de toi.
Allez, bougez pas, on revient dans un instant avec Pascal Légitimus, Manon Chevalier et Pierre Thévenoud. Et puis notre spécial, elle et lui, et le reste du monde, Victor Belmondo et Emmanuel Belloraski en fin d'émission. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Détache-moi des ombres quand l'averse frappe, quand l'espoir s'inonde, nos deux cœurs s'écartent, plus rien ne se résout. Même dans nos rendez-vous, l'oubli facile n'est pas mon fort. Quand au fond de nous s'abrite la mort, les larmes se retrouvent. Quand tout s'écroule, j'ai noyé les mots de nos rendez-vous. J'ai crié sous l'eau pour ne pas devenir fou. Pas la coup de foudre, la pluie éclate et les papillons souffrent. Rendez-vous, loin de nous. La nuit a été longue, je sens mon pouls dans la tempe. Je compte les secondes, le doigt sur la détente. Dieu n'appuierait jamais, je pleure ceux qui l'ont fait. J'ai croisé mon ombre sur les murs de ta chambre. Elle dansait le long d'une lune incandescente. Pas le temps pour les regrets. Ce soir les jeux sont faits. J'ai noyé les mots de nos rendez-vous. J'ai crié sous l'eau pour ne pas devenir fou. Rendez-vous, loin de nous. L'amour fou ne rend pas les coups de foudre. La pluie éclate et les papiers. On souffre, rendez-vous. Rendez-vous, loin de nous. L'histoire ne prend pas de silence. L'espoir, lui n'a pas de distance. Oh, alors on espère, tu prends la première vague, je prends la terre. J'ai noyé les mots de nos rendez-vous, j'ai crié sous l'eau pour ne pas devenir fou. Rendez-vous, loin de nous, l'amour fou ne rend pas les coups de foudre, la pluie éclate et les papillons souffrent.
On écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé est consacré à la pièce de théâtre Le Duplex. Quel bonheur de voir du théâtre en prime time sur France 2. Ça sera demain soir avec un casting de fou. Claire Nadeau, Francis Perrin, Corinne Touzé et Pascal Légitimus qui est avec nous. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour monsieur Alain. Bonjour, bonjour. Et bonjour les auditeurs, auditrices.
Ça va bien mon cher Pascal?
Écoute, pour l'instant, la santé est bonne, il y a du travail, j'en reçois, j'en crée, la famille va bien. Écoute, il y a une espèce d'équilibre un peu partout, on gère et on digère, même si le climat est anxiogène et prévisible, mais ça va.
Oui, on a bien besoin de rire et c'est ce qu'on va faire justement demain soir. On va quand même spécifier que le rôle d'Annie Tessandier est joué en alternance hein, entre Claire Nadeau et Annie Dupéré, que la captation a été faite avec Claire Nadeau. Et on va découvrir donc que le Duplex raconte l'histoire des bergers qui habitent au sixième et dernier étage d'un immeuble parisien. Ils s'y sentent tellement bien qu'ils aimeraient agrandir leur espace et rêvent de récupérer l'appartement des Tissandier, leurs sympathiques voisins du dessous, afin de se créer un joli duplex. Mais les Tissandier, eux, sont heureux dans leur appartement et ne comptent pas déménager. Alors, comment faire? Il ne reste plus au berger qu'une seule solution. Utiliser tous les moyens possibles pour arriver à leur fin, pour faire exploser le couple et leur faire vendre leur appartement. Mais tout va pas se passer comme prévu, évidemment. Et je crois que ce personnage de Chou Berger, tu prends un plaisir immense à l'incarner parce qu'il est délicieusement méchant, fourbe, il a toutes les qualités, quoi.
Bah effectivement, j'ai accepté le rôle d'une part parce que bon, c'est Didier Caron qui a mis en scène et écrit. Didier Caron qui a eu quelques Molières et puis il a une très bonne plume, très bon metteur en scène. Deuxièmement, bah le casting qui m'accompagnait, donc Claire Nadeau pour la captation, Francis Perrin et Corinne Touzet, avec qui je n'ai jamais travaillé, donc c'était une équipe un peu novatrice. Et puis le fait de jouer une pièce avec un personnage effectivement méchant, machiavélique comme tu l'as dit, retors, vicieux, menteur, enfin il a tous les défauts de la terre, mais c'est drôle. Donc c'est ça, cette ambivalence-là qui m'a plu, c'est que je n'ai pas pris au premier degré comme dans un film avec des vrais méchants. Il se trouve que là, il y a une alternance de situations, de sentiments. J'ai plusieurs variations à défendre, des sentiments subtils. Donc c'est un rôle très très riche. Et puis évidemment, c'est une heure et demie où les gens rient beaucoup, mais pas que. Il y a de l'émotion, il y a des échanges. Et puis aussi, c'est une comédie de mœurs. C'est pas une comédie de boulevard, c'est une comédie de mœurs, tout simplement, parce que on touche à des sujets assez contemporains sur la vieillesse, la jalousie, le voisinage, et ainsi de suite, ainsi de suite.
Et oui, l'envie aussi, voilà, toujours d'envier la vie des autres, etc. Et de ce qu'ont les autres, sans des fois s'apercevoir de ce qu'on a nous. Il y a plein de sujets qui se mêlent. Alors, quel bonheur de voir Corinne Touzé oui, sur oui. scène à tes côtés. Parce qu'on bien l'adore, sûr. Corinne, et elle nous manque tellement à la télé déjà.
Mais ça fait plusieurs années qu'elle me copte, qu'elle essaye de me draguer professionnellement. Et évidemment, bah, les plannings n'étaient pas concordants. Donc, à un moment donné, il y a eu cette opportunité-là. Donc, et c'est vrai que on fait un couple assez crédible, un peu bobo. Et on fait bobo aux voisins du cinquième. La petite information, c'est une pièce qui a été captée donc à Noël, qu'on a joué, interprétée. On l'a joué 3 fois devant 400 personnes. Donc, elle est diffusée effectivement le jour J. Et c'est Claire Nadeau qui s'y est collée. Et donc, cette pièce, on l'a reprise à Paris depuis février et on fait entre 800 et 1000 personnes par jour et on la prolonge au mois de décembre. Donc, la version que les gens vont voir à la télé, c'est une version un peu différente, mais c'est la version verte, on va dire, avec Claire Nadeau qui a une énergie débordante et très, très, très drôle.
Ah ben on l'aime, à notre mamie Suze, hein. Surtout qu'elle est en plein tournage en ce moment du nouveau Tuche aussi, ouais. Donc on l'aime évidemment très fort et on va la retrouver demain soir avec grand grand plaisir. Pascal, le théâtre souvent pour un comédien, c'est un terrain de jeu inimaginable parce qu'on a vraiment le lien avec le public direct, on voit tout de suite si ça rigole, si ça réagit, alors que dans un film ou une fiction, ben, on sait pas toujours quoi et c'est toujours un peu compliqué d'avoir ce côté abstrait de la caméra et de savoir comment les gens vont réagir. Alors qu'au théâtre, c'est immédiat.
Effectivement, dans ta question, il y a un peu la réponse, mais moi, je pourrais rajouter que moi, ça fait quelques années que je privilégie le théâtre parce que j'aime l'art vivant, j'aime le partage, l'esprit de troupe. Je fais un peu plus de télé et un peu moins de cinéma, mais le cinéma, je commence à m'y atteler parce que c'est en fonction des rôles qu'on me propose, évidemment, parce qu'on me propose des choses, mais moi, je suis un acteur de composition, j'aime bien composer. Donc, dès qu'on me propose un rôle qui me ressemble, ben, je décline gentiment et poliment. Il se trouve que le théâtre, depuis 2003, exactement, où j'ai commencé avec Michel Bernier dans Nuit d'ivresse, où j'ai remplacé Francis Huster à Paris. Et pour la tournée, on a fait plus de 70 dates.
T'as dû te régaler.
Ah bah évidemment, en plus que Michel Bernier, c'est une pote du théâtre de Bouvard. Donc voilà, on a quand même beaucoup de points communs et d'affinités. Donc depuis 2003, je fais du théâtre quasiment tous les deux ans, avec Mathilde Amet, avec Lully de Bonnat, Philippe Lelièvre, on a joué dans Non à l'argent. Et puis avec Claire Nadeau également, qui jouait ma mère aussi. Et puis après, j'ai fait la tournée mise en scène par Richard Berry, une pièce s'appelle L'Ordre des Choses, où j'ai remplacé Darmon pour la tournée, et ainsi de suite. Et puis j'ai fait deux spectacles de seul en scène, et puis voilà, j'enchaîne comme ça. Et puis j'ai L'Invitation, j'ai repris l'année dernière au Théâtre des Bouffes Parisiens avec Patrick Chenet. Donc voilà, moi, le théâtre, c'est mon dada, c'est mon truc. Et puis je reçois beaucoup de projets, évidemment, parce que comme en France, c'est un peu vu à la télé, vu au cinéma, et dès qu'on voit les personnes en lumière, tout de suite on est aimanté. Ça, c'est un peu très français. Aux États-Unis, il n'y a pas besoin de ça. Aux États-Unis, quand quelqu'un a du talent, on va le chercher tout de suite. En France, il faut être dans la lumière pour qu'on te remarque. Donc, je suis dans la lumière théâtralement, donc j'en profite. Mais voilà, j'ai d'autres bricoles sur le feu, tranquillou. Puis bon, ma carrière n'est pas finie, mais je prends mon temps, je fais ce que j'aime surtout.
Et t'as bien raison. Et puis, tu aimes aussi écrire. Et puis, il y a L'Alphabétisier que moi, je vous conseille. On t'avait reçu pour ce livre également, qu'on peut trouver dans tous les bons espaces culturels. Là, c'est pareil. C'est un livre où on rigole beaucoup. On découvre plein de choses, plein d'anecdotes également sur des mots.
C'est ça. C'est un livre que j'ai écrit en 2019 avec un ami journaliste. Ben là, je fais pas mal de dédicaces dans les Leclerc bientôt. Et parallèlement, je fais aussi des photos de coquillages, parce que je suis un collectionneur de coquillages. Donc, depuis deux ans, je m'attelle à développer cette activité qui me tient à cœur. Donc, je mets des coquillages en situation, en hiver, en été, dans des endroits un peu insolites. Ça crée des trucs plutôt sympas. Et donc, j'ai fait déjà deux expositions de photos. Et je mets des photos sur des toiles, des fois. Et j'ai fait une expo à Roanne en décembre. J'en ai vendu 18. En deux heures, les gens se sont rués dessus. Ils m'ont dit « Ah, c'est beau, c'est super !» Je dis « Ah bon, vous croyez ?» Parce que moi, j'avais des doutes. Et donc, j'ai fait à Melun, dernièrement, pareil, j'ai une exposition de photos. Et donc, j'étais dans l'obligation de créer un site qui s'appelle Artimus Photographie, .com, où on peut voir à peu près plus de 90 photos de coquillages qu'on peut offrir à la fête des pères, qu'on peut offrir à Noël, à des amis, peu importe, ou même dans des chambres, dans des salons. En tout cas, c'est un moyen de décorer. Et c'est aussi, c'est signé. Elles sont toutes signées, toutes les photos. Ça, j'aime beaucoup, c'est mon truc. Et puis, comme projet, là, j'ai une série à reprendre qui s'appelle RIP, R-I-P, avec Claudia Tagbo. Je fais l'ex-mari de Claudia Tagbo.
C'est pour TF1, il me semble?
Ouais, sur TF1, c'est Maison funéraire. Donc, on va reprendre la saison 2 cet automne.
Ouais, c'est une bonne nouvelle, ça, alors que la une n'a même pas été encore diffusée. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, généralement.
Exactement,
c'est que TF1 y croit.
Oui, on va entamer la suite prochainement. Et puis voilà, puis il y a des bricoles comme ça. Et puis sur mon Instagram, j'ai mis quelques nouvelles, donc pour ceux qui sont curieux, ils jettent un petit coup d'œil. Puis avec Les Inconnus, on verra. On s'est vu dimanche dernier.
Ouais.
On essaye de mettre au point ce fameux film avec Riyad Satouf.
Voilà, ça serait génial, ça. De vous retrouver avec Bernard et Didier. Bernard, qu'on va recevoir là dans les semaines qui viennent pour L'Enfant qui mesurait le monde, d'ailleurs, avec Takis Candilis. On va recevoir Bernard Campan. C'est génial. On va en avoir deux sur trois là en 15 jours de temps. Ça va être top.
Oui, en plus Bernard va être au théâtre à la rentrée, au théâtre Antoine. Donc non, mais voilà. Écoute, on est présents, les inconnus.
Bon,
Didier fait
génial.
Beaucoup de cinéma. Le talent ne dépérit pas. Et c'est vrai qu'on est ravis de toujours transmettre, de faire plaisir aux gens, de les faire rire ou de les provoquer des émotions ensemble ou séparément.
Le duplex, ça pourrait partir en tournée ou pas? Est-ce qu'en tout cas c'est dans les tuyaux?
Alors, cher monsieur, nous avons eu plus de 60 demandes de la province, donc je pense qu'il y a plus de 80 dates qui vont se mettre en place
en 2025.
Automne 2025, si ça se met en place.
Ouais, génial, on sera sur le coup.
Ça va être un raz-de-marée, cette pièce, c'est un truc incroyable. En fait, quand on a commencé la reprise de 40 représentations exceptionnelles du 22 février au 31 mars, on avait plus de 10 000 réservations avant de commencer sans promo. C'est magique. Alors, peut-être c'est l'énergie des quatre personnages sur scène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vedette et des comédiens autour, satellite. C'est quatre personnes qui ont un passif. Et donc, du coup, et puis sur scène, il y a une vraie énergie, il y a une entente, on s'aime beaucoup, et puis ça coule tout seul. Il n'y a pas un qui va prendre la vedette plus que l'autre. On s'amuse, ça se voit. Et puis tous les soirs, il y a des petits trucs en plus qu'on crée, parce que voilà, comme tu disais tout à l'heure dans la question précédente, c'est-à-dire que le théâtre, c'est ça qui est génial, c'est que c'est du live, c'est du direct. L'émotion, les rires sont tout de suite. Et ça, c'est, voilà, tu as la preuve que ça marche ou que ça ne marche pas.
Eh oui, c'est ça. En tout cas, demain soir, ça va marcher, j'en suis sûr. Parce que c'est tellement bien d'avoir du théâtre en prime time sur une grande chaîne de télé. C'est sur France 2, ça s'appelle Le Duplex. Avec Claire Nadeau, avec Corinne Touzé, avec toi, évidemment, Pascal. Enfin, il y a vraiment du beau monde dans cette pièce que je vous conseille, évidemment, avec également Francis Perrin, qu'on adore aussi. Donc voilà, vraiment, allez voir cette belle troupe de comédiens déjà en live aussi, puisque ça va se jouer jusqu'à la fin de l'année à Paris aussi. Rien de tel que le spectacle vivant aussi. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez déjà vous délecter demain soir, c'est sûr.
Super. Bah, écoutez, en tout cas, moi, je vous engage. On est là pour vous faire plaisir, surtout par les temps qui courent, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Donc, il faut de l'humour, il faut de la joie. Faut pas se laisser abattre par le climat anxiogène. Voilà.
Eh bien, demain soir, c'est sur France 2 à 21h10. Merci beaucoup, Pascal, et à très vite.
À bientôt, peut-être avant. Salut, les amis.
Salut.
J'ai une idée lumineuse.
Je t'écoute.
On va semer la zizanie dans leur couple pour qu'ils mettent leur appartement en vente.
Chou, tu es diabolique.
Et encore, t'as pas tout vu.
Allez, coup de cœur télé consacré à Plus belle la vie, encore plus belle. Et on va parler du personnage de Zoé aujourd'hui avec Manon Chevalier qui est notre invitée. Bonjour Manon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Tu es arrivée dans cette série, on a découvert que Ariane avait une fille, qu'elle avait abandonnée à la naissance et ses retrouvailles n'ont pas été de tout repos, dis-moi.
En effet, on part sur une histoire assez compliquée. Donc forcément, il y a des gros enjeux, de la haine et de l'amour. Et plein de belles choses à voir aussi à l'écran. Donc voilà. On est très content.
Il y a un binôme qui fonctionne pour le coup avec Lola, toutes les deux. On a l'impression, mais vraiment, qu'elle a retrouvé sa vraie fille, quoi. C'est tellement le binôme fonctionne à l'écran de manière assez spectaculaire entre vous deux.
Je pense que c'est vraiment dû à l'alchimie naturelle et c'est ce que je répète depuis tout à l'heure parce que c'est vraiment ce que je pense entre moi et Lola où vraiment on force pas, on cherche pas à avoir ce lien comme ça. Et moi je m'en rends pas compte en tout cas en étant spectatrice de voir ce que vous voyez. Mais c'est vrai que les retours sont souvent, c'est souvent cette phrase là et c'est un grand plaisir.
Ah oui, c'est pas toujours le cas et là vraiment ça fonctionne super bien même si effectivement ce lien qui les unisse toutes les deux n'est pas évident, elles doivent s'appréhender voilà, c'était prévu dès le départ que le personnage de Zoé s'installe comme ça sur la durée après cette intrigue on va dire fortement marquée pendant ce mois.
Totalement, c'était prévu. On a justement voulu faire venir Zoé dans une situation un peu particulière pour pouvoir l'ancrer dans Plus belle la vie.
Bah oui, et de manière très très forte, on va dire qu'elle a fait une arrivée remarquée quand même.
Hein. Exactement, et c'est cool d'ailleurs. Parce que
c'est chouette de jouer ça.
On n'est pas sur quelque chose de lisse, on est sur quelque chose d'assez poussé, d'assez fun à jouer d'ailleurs. Moi j'adore jouer des moments de peste ou des moments de colère. Ou des moments. J'adore jouer les émotions qui ne sont pas toujours dans la bienveillance. Je prends un malin plaisir à le faire.
Il y a des choses qui passaient dans le regard par moment. La question que je me suis posée, pour le coup, tu as été doublée ou est-ce qu'il y a des cascades que tu as voulu faire aussi toi-même dans ces histoires, dans cette intrigue un peu à la Cat's Eyes?
Alors,
c'est avec la couleur des cheveux, hein, pour le coup, qui pouvait nous tromper, mais on serait cru dans Cat's Eyes, hein, et il suffisait d'une perruque. Hein.
Alors, j'ai une double super qui s'appelle Lilou, qui est juste oufissime. Et du coup, en fait, il y a eu quand même des séquences que j'ai voulu faire, c'est-à-dire que les séquences avec la corde, par exemple, je me suis retrouvée à un moment donné, une après-midi, à aller voir si j'arrivais à grapper à une corde. Et j'y arrivais, c'est totalement dingue de se dire qu'en fait, si on se dit qu'on n'y arrive pas, ben on n'y arrive pas. Et si on tente, ben on peut se surprendre. Donc il y a des séquences de la corde où c'est moi. Et ensuite, concernant cette séquence sur les toits, j'ai fait une tentative avec...
Séquence Emma Casey.
Exactement. où il y avait Marion Lallier en tant que réalisatrice, qui m'a dit oui, maintenant tu te sens de faire ça, de sauter tout machin. Je lui dis mais easy, je le fais en 2-2. Ben je me suis pété limite le genou. Enfin, quand je dis pété, c'est un grand mot. Je me suis fait un bon bleu sur le genou parce que je savais pas faire, que je pensais que c'était facile. Et c'est un métier.
C'est pour ça que les assureurs sont là aussi.
Et totalement. Et moi, je suis un peu Pierre Richard en plus, donc je joue un peu avec ma vie et des fois, faut pas trop me faire confiance.
Bon, en tout cas, on a l'impression que le personnage de Zoé s'est bien installé au Mistral. Il peut compter sur le soutien de tous les Mistraliens, évidemment, et sur le soutien des fans qui, j'ai l'impression, ont accueilli tous les nouveaux personnages, mais à cœur ouvert. Tellement ils sont heureux de retrouver les anciens, mais en même temps, de voir de nouvelles histoires. Et t'as pu tester déjà un peu pour la première fois la popularité de la série au Festival Sérimania à quelques semaines.
Totalement. C'est quoi la question du coup ?
L'accueil était ouf du public. Ouais. Comment tu l'as pris toi ? Okay. Cet élan d'amour d'un coup ?
Choquée. Je suis passée. Manon, what ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes trompée là ? Ben c'est toujours surprenant quand on n'a pas l'habitude. Forcément, on passe. Moi, j'étais encore commis de cuisine au mois de juin, quoi. Donc c'est vrai que on passe du coq à l'âne et on s'adapte et on essaye de se dire que bon bah on a travaillé pour aussi, donc on reçoit l'amour qu'on aurait aimé recevoir et c'est un pur plaisir quoi. Et c'est fou de se dire qu'il y a des gens qui nous aiment à travers un écran quoi, qui nous connaissent pas mais qui nous aiment à travers un personnage, et ça que je trouve incroyable.
Comment tu vois l'avenir pour Zoé ?
L'avenir pour Zoé, je pense qu'elle restera toujours un petit peu dans son côté rebelle. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite parce que j'ai pas envie qu'elle s'attendrisse. Je trouve que ça lui donne du caractère et c'est ce qui est cool aussi à voir, de pas toujours avoir des personnages ultra sympas. Et ben l'avenir pour elle, c'est qu'elle est encore jeune, donc il y a plein de choses qui peuvent se passer, des histoires d'amour, peut-être encore des ambiguïtés avec le passé, on sait pas.
Comment tu gères justement cette différence d'âge entre toi et ton personnage ?
Je pense que je suis toujours un peu une gamine quand même, donc ça m'aide vachement dans le rôle. Lola aussi me dit des fois, pour faire plus gamine, elle me dirige un peu, tu devrais peut-être voir comme ça. Et donc du coup, c'est ce qui m'aide. Voilà. Mais après, je trouve qu'entre mes 16 et mes 26 ans, pour moi, j'ai pas réellement changé sur mes attitudes. Alors dans ma manière de penser peut-être, mais j'ai toujours ce truc un peu gamin, un peu, je suis un peu fofolle encore.
Hein. T'avais regardé Plus belle la vie avant ?
Oui. J'avais regardé Plus belle la vie avant, mais j'ai pas suivi longtemps dans le sens où j'étais petite et la télé était allumée. Et ma maman regardait beaucoup Plus belle la vie. Mon papa suivait parce que la télé était allumée aussi.
J'imagine leur fierté aujourd'hui.
Très fiers. Ils sont très fiers et ça me fait trop plaisir parce que je pense qu'il y avait un moment donné où on s'est dit que bon, ça serait peut-être pas l'issue. Parce que depuis 18 ans quand même, j'ai essayé, j'en ai 26 aujourd'hui, j'essaye vraiment de pouvoir m'ancrer dans ce métier, sachant que j'avais déjà tourné avant et tout, et que j'avais une carence parce que j'étais partie en Guadeloupe pendant 5 ans. Et pour le coup, aujourd'hui, là, je suis dedans, quoi. Et ça fait du bien. Je suis plus frustrée.
Ça t'a ouvert déjà des portes ? Est-ce que t'as des projets là pour les mois qui viennent ?
Ouais, c'est récent. Je viens tout juste de tourner. Donc pour le moment, en tout cas, non. Ça m'a pas ouvert des portes, hormis plus de followers sur Instagram.
C'est déjà beaucoup. Ta popularité va t'amener du travail automatiquement.
Je pense aussi, oui. Enfin, en tout cas, c'est l'intérêt des réseaux sociaux aussi. Je pense c'est qu'on puisse avoir de la visibilité. Donc, j'espère bien.
Merci Manon d'avoir été avec nous. Vous pouvez suivre évidemment le personnage de Zoé du lundi au vendredi à 13h45 sur TF1 dans Plus belle la vie, encore plus belle. On se dit à bientôt.
À très bientôt et merci beaucoup.
Merci à toi.
J'ai pas arrêté de penser à Abdel cette nuit. Et s'il est responsable de quoi que ce soit, je veux qu'on me le dise.
Il était sur le point de révéler une affaire grave au commandant Bauer. Voilà le pendentif qu'on cherche.
Ça nous fait 3 pendentifs et on a 3 suicides.
Ça me rendra pas mon mari, mais je veux que cette personne paye pour ce qu'elle a fait.
Action. C'est plus ou moins facile de travailler en famille ?
Pour nous, ça nous pose pas de problème.
Et vous ? Vous êtes déjà interviewé ?
Je veux pas qu'on utilise mon image.
Elle est nulle part sur les réseaux sociaux. Notre Jennifer n'existe pas.
Elle existe ici, c'est déjà pas mal.
Inédit Plus belle la vie, la semaine prochaine à 13h50 sur TF1 et en streaming sur TF1+.
Allez, on va parler humour avec du spectacle, évidemment, à aller voir partout dans notre région. En 2025, Pierre Thévenoud, issu du Jamel Comedy Club de la 9e saison, où il avait excellé. Et donc, Pierre s'est fait connaître beaucoup grâce à cette émission, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, il sillonne les routes de France. Et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Pierre.
Bonjour tout le monde.
Alors, Pierre Thévenoud est marrant, enfin normalement. C'est ça, hein, un peu en gros, le spectacle.
Ouais, bah, faut bien trouver un titre, donc on savait pas trop quoi mettre. Donc j'ai mis le premier truc qui m'est venu par la tête, et comme ça au moins si les gens ils rigolent pas, j'ai une excuse quoi.
Exactement. Pierre, comment on devient humoriste ? Qu'est-ce que tu dirais des jeunes qui ont envie de se lancer, qui font du stand-up, qui font du one man ? Quel a été en tout cas toi tes déclics et peut-être tes anges gardiens dans le métier qui ont fait que tu es là aujourd'hui ? Alors, on imagine peut-être Jamel Debbouze évidemment, mais quels sont ceux qui t'ont aidé et ce moment où t'as eu ce déclic en disant je veux faire ça ?
Alors l'ange gardien principal, ça reste Pôle Emploi quand même. Quand tu te lances dans ce métier,
ça peut servir.
Mais moi je me suis pas lancé directement. Genre j'ai tout lâché et tout pour ça. Non, j'ai fait progressivement. J'ai joué très
safe.
Voilà, j'ai joué très safe. Et petit à petit, c'est devenu mon métier et mon gagne-pain. Donc j'en sais rien. Moi, tout le monde dit faut se lancer à fond et tout. Moi, je dirais allez-y tranquille, faites gaffe parce que ça peut marcher très bien, mais ça peut aussi foirer. Et donc il y a un petit plan B quoi.
À quel moment t'as eu le déclic quoi? T'as su que tu voulais faire ça?
Ah, c'est venu tard. Hein. C'est venu très tard. Je sais pas, j'avais 25, 26 ans. Puis j'ai commencé à faire ça un peu par hasard et puis j'ai commencé à trouver ça vraiment cool. Et puis un jour, c'est devenu vraiment. C'est ça fait petit à petit quoi. Et c'était, j'ai toujours aimé faire rire les gens, et petit à petit, au bout d'un moment, c'est devenu mon taf, quoi, et du coup, c'était incroyable, quoi.
Et t'as des vidéos, mais franchement, mais sur le net, qui sont devenues totalement virales, on peut le dire aussi. Je crois qu'Internet a joué aussi, on va dire, une grosse part, hein.
Ouais, aujourd'hui, t'es pas obligé de faire que par les médias traditionnels, et tu peux utiliser Internet pour filer des sketchs gratos aux gens, quoi. C'est ce que je fais, j'aime bien en plus écrire plein de nouveaux trucs tout le temps. Et te faire connaître et pour qu'ensuite ils viennent ou non te voir en spectacle.
Et aujourd'hui ils viennent en nombre puisque tu vas faire une grande tournée en 2025 partout en France pour jouer ce spectacle. En tout cas, il y a eu des premiers retours puisqu'il y a une première partie de tournée qui a eu lieu en ce début 2024. Et il faut dire, le public était tellement au rendez-vous qu'il a fallu rajouter plein de dates pour l'année prochaine.
Ben c'est ça.
C'est bon signe.
Ouais, c'est bon signe. C'est que j'avais prévu d'arrêter plus ou moins en fin de cette année. Mais j'ai subi quelques pressions de gens
de Pôle Emploi.
Pas de Pôle Emploi, mais de gens de certaines villes où j'allais pas. Donc du coup on a calé des dates, et puis les villes où je suis allé, quand c'était vu que c'était rempli à chaque fois, et ben on a rajouté des dates et pour l'an prochain. Comme ça je refais une année de ce spectacle, et après en 2026 je fais un nouveau.
Quelles sont tes envies, en tout cas, là, pour l'avenir? Parce que souvent, quand on fait de la scène, on a aussi peut-être des envies de cinéma, des envies de télévision, des envies peut-être d'émission. Toi, c'est quoi tes envies, là, aujourd'hui?
Alors, moi, ciné, je m'en tape. Être acteur et tout, c'est pas du tout mon truc, mais j'aime bien écrire. Donc là, j'essaie d'écrire pour d'autres humoristes. Là, j'ai une BD sur l'écologie qui sort. Bientôt, là, j'essaie d'écrire un peu peut-être un scénario de film ou de série aussi, je suis sur ça. Mais plus,
plus homme de l'ombre après.
Ouais, plus auteur que acteur. Mais c'est qu'acteur, déjà, je me sens pas forcément légitime, et puis c'est pas, j'y trouve pas une passion incroyable, quoi. J'aime bien jouer mes propres trucs, quoi. J'aime pas trop qu'on me dise, fais ça, fais l'émotion, pleure, machin, je sais pas faire, et puis je suis pas très à l'aise avec ça, quoi.
Une fois que t'auras écrit, t'auras plus qu'à réaliser ton film. À toi.
Ouais, pourquoi pas. On verra bien, pourquoi pas. C'est une bonne idée.
On te le souhaite, en tout cas, mais c'est vrai qu'on aime bien, quand on aime bien justement faire ces choses soi-même, on peut voir quelqu'un comme Artus qui fait un succès totalement incroyable, qui a réalisé son premier film. Donc on espère évidemment ce succès à plein de monde aujourd'hui, plein de jeunes auteurs talentueux. Alors, à quoi on peut s'attendre, mon cher Pierre, quand on va te voir sur scène?
Je fais des blagues, je parle un peu de tout. Moi, je fais du stand-up, hein. C'est vraiment génial, je fais des blagues, quoi. Au début, je parle un peu aux gens, je fais un peu d'impro, mais pas que ça, je veux pas que ce soit que de l'impro. Et puis après, je parle de tout, de sujets un peu banaux, la vie, la mort, l'amour, les relations de couple. Puis après, je parle un peu dans tous les sens, je parle un peu des animaux, des trucs comme ça. Et puis souvent, je fais des vannes un peu sur l'endroit où je suis, quoi. J'essaie de faire d'adapter un peu des blagues dans la ville dans laquelle je me trouve.
Donc là, c'est sur la route, là, tu recherches, tu regardes, tu dis voilà sur quoi je vais pouvoir appuyer.
Ouais, puis après, il y a pas mal souvent les grosses villes, il y en a plein que je connais déjà bien ou que j'ai déjà vécu, tu vois, genre surtout dans la région, là. Moi, j'ai vécu à Bordeaux, à Toulouse, machin et tout.
Est-ce que t'es originaire de Poitiers, toi?
Ouais, je suis de Poitiers, représente le 8-6. Donc voilà, dans le spectacle, il y a moi qui fais des blagues, et à la fin, en général, à la fin du spectacle, quand c'est fini, quoi, si ça se fait bien passer, je teste des nouvelles blagues, je préviens les gens et on teste ensemble et c'est rigolo, quoi.
Allez, les congrès du Futuroscope ou l'Arkéa Arena, c'est pour quand?
Alors, j'étais au TAP de Poitiers, là, cette année, donc c'était très cool. Et je fais un truc à l'Arena du Futuroscope en septembre. C'est un plateau qu'on fait à plusieurs humoristes.
On te voit souvent partager la scène avec d'autres aussi. C'est important pour toi?
Oui, parce que c'est une aventure qui est quand même un peu individuelle, quoi. Et donc, c'est cool de le faire des fois avec d'autres copains, de pas être tout seul sur la route. C'est assez sympa, ouais.
Partager la scène aussi, peut-être. Écrire un duo à l'avenir, c'est quelque chose qui pourrait te dire, ça?
Alors non, un duo, je pense que je suis pas du tout à l'aise avec ça, mais bon, c'est jamais, hein, c'est pas ce qui peut se passer. Écrire une pièce de théâtre peut-être, mais pas forcément pour y jouer, pareil, quoi, je suis pas trop comédien là-dessus, quoi. Je sais faire que du stand-up, quoi.
Bon, Pierre Thénoux est marrant. Normalement, vous allez voir ça évidemment partout en France sur scène. Pierre, on va avoir le plaisir d'aller t'applaudir et puis on va écouter un petit extrait juste après. Je reviens avec toutes les dates dans votre région près de chez vous où Pierre va venir s'installer le temps d'une soirée pour venir vous faire rire. Merci beaucoup.
Merci tout le monde, à bientôt.
Et à très vite.
Salut.
Allez, bah c'est parti pour le comique. Est-ce que la veille d'une randonnée, t'as déjà eu une insomnie tellement t'es excité, genre... Demain, bah dans le Massif Central, avec un peu de chance, on va avoir des marmottes.
Quand un sport, il est vraiment bien, il y a un jeu vidéo de ouf qui cartonne derrière. Randonnée Simulator 2020, jamais entendu parler.
Allez, Black 2.
Dans ton logement, plus une pièce a de fonction, plus t'es pauvre. Et inversement, moins une pièce a de fonction, plus t'es blindé. Moi, j'ai un pote à Paris, le mec... Il a une entrée.
Allez, vous pourrez aller applaudir Pierre Thénoux en spectacle 19 février 2025 au Casino de Toulouse, le 1er avril à la Gare du Midi de Biarritz ou encore au Théâtre Fémina de Bordeaux le 12 avril 2025. On va marquer une pause, on va revenir avec l'équipe de Elle et Lui, le reste du monde, Victor Belmondo, Emmanuel Belloras qui se prépare et on vous rejoint dans quelques instants. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Je côtoie tous les jours la violence de cet amour en fait. Je suis pas prêt pour ça, mais j'y crois. Je pourrais ressortir tout ce que j'ai dans la tête. Mais j'ai peur de te perdre encore une fois. Encore une fois, encore une fois. J'ai pleuré dans le creux de mes mains. Encore une fois, encore une fois. Le temps passe, il me reste que des images. Cet amour, il me reste que l'héritage. Encore une fois, le plus dur restera l'atterrissage. J'ai tant rêvé de maintenir ta main, tant rêvé de caresser ton visage. Je me suis réveillé un beau matin, à mort, sans foi. J'ai perdu mes repères si loin de toi. Oh, oh, je te vois. Je côtoie tous les jours la violence de cet amour en fait. Je suis pas prêt pour ça, mais j'y crois. Je pourrais ressortir tout ce que j'ai dans la tête, mais j'ai peur de te perdre encore une fois, encore une fois, encore une fois. J'ai pleuré dans le creux de mes mains, encore une fois, encore une fois. Pour ça, mais j'y crois, je pourrais ressortir tout ce que j'ai dans la tête. Mais j'ai peur de te perdre encore une fois, encore une fois, encore une fois. Je pleurais dans le creux de mes mains, encore une fois, encore une fois.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine s'appelle Elle et lui et le reste du monde. Un film d'Emmanuel Belloratsky qui est avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Tu n'as pas écorché le nom ?
Non, bravo, j'allais le dire. C'est vraiment, c'est rare, c'est rarissime même.
Bon, je l'ai travaillé, j'avoue. Et Victor Belmondo, un habitué de l'émission qui vient nous rejoindre. Bonjour Victor.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous. Victor, tu joues le rôle de Marco qui va dépanner un ami sur la sécurité des ascenseurs. Et puis, Marco va se retrouver dans une histoire un peu malgré lui, rocambolesque, tout au long d'une nuit de folie. On va y revenir évidemment sur Marco, mais d'abord Emmanuel, comment est né le projet, comment est née cette idée?
Alors l'idée, en fait, c'était un jeune musicien que je connais qui un jour me dit « Ah voilà, je suis content, je vais pouvoir vivre de ma musique et arrêter complètement mon boulot que je fais pour boucler les fins de mois. » Je lui dis « Mais c'est quoi ton boulot ?» Et il me dit « Je dépanne les ascenseurs bloqués en fait et je travaille de nuit dans un centre d'appel. » Et là, vraiment, mon imaginaire est parti et je me suis dit « Mais ce serait génial en fait d'avoir un personnage comme ça seul dans la nuit qui tombe sur une voix féminine et quelque chose se noue en fait entre les deux. » Je trouvais original en fait ce dispositif d'avoir cette voix de femme et lui dans le centre d'appel. Et ensuite, on a été avec mon co-auteur Jérôme Boivin très porté par un film After Hours de Scorsese où vraiment ça part sur un petit rien et puis toute la nuit on part de catastrophe en catastrophe pour à la fin, je vous dévoile pas la fin.
Et ben non, parce qu'on va dire à nos auditeurs en tout cas d'aller le voir et effectivement, c'est un peu un coup de foudre vocal, je dirais, un peu Victor. Comment tu situerais ça toi?
Ouais, c'est un coup de foudre vocal, mais en même temps, ils se parlent, ils se racontent leur vie, donc ça se situe ailleurs aussi. Je pense que c'est deux solitudes qui se rencontrent la nuit du 14 février, qui se rencontrent d'abord par la voix, effectivement, et puis ensuite, on va voir s'ils se rencontrent ailleurs, mais oui, c'est en tout cas, ça passe par la voix au début.
Au début, c'est ce qu'on va voir, puisque c'est Bulle qui est coincé dans un ascenseur et qui va t'appeler au secours pendant de nombreuses heures presque. Hein. Et puis, c'est au moment où tu vas décider, en tout cas Marco va décider d'aller la dépanner lui-même, que l'ascenseur va se remettre en route. Mais ça, il ne le sait pas, Marco. Et évidemment, Bulle va se volatiliser. Et c'est cette recherche, en tout cas, qu'il va tenter de faire. Et ça va l'emmener, mais vraiment, de catastrophe en catastrophe. C'est incroyable, il va se retrouver au commissariat, enfin on va pas tout dire évidemment, mais ça fait partie des toutes petites choses qui lui arrivent. C'est dingue cette nuit-là.
Ouais, le sort s'acharne sur lui. Parfois il y a des moments dans la vie où rien ne s'arrête et puis c'est juste un effet domino qui continue et qui est interminable. Malheureusement, ce sort du 14 février pour Marco, c'est ce qui va se passer, c'est inarrêtable pour lui et voilà, on va voir, vous verrez comment ça termine quoi.
Et le pire, c'est qu'ils se rapprochent très très souvent l'un d'autre et à chaque fois, on passe une heure et demie à se dire, mais vont-ils se retrouver? Vont-ils se voir? Vont-ils se connaître? Vont-ils... C'est ça aussi la magie de la plume de l'écriture du scénario, Emmanuel.
Ça fait plaisir de l'entendre vraiment et je pense aussi que c'est un peu une allégorie aussi en fait de la vie dans laquelle, du moment de vie dans laquelle se trouve Marco. En fait, il est un peu coincé de tous côtés. On va pas non plus tout raconter, mais il y a rien qui marche vraiment. Et soudain, avec la voix de cette femme et cette envie en fait de la libérer, même si c'est in fine beaucoup plus compliqué que ça, il se remet en marche en fait. Il se remet à croire en quelque chose alors qu'il était un petit peu dans un moment de down, quoi. Hein. Et c'est ça qui nous a plu beaucoup à l'écriture de ce film.
Alors au niveau casting, on est gâtés, hein, parce qu'au côté de Victor, il y a Galatea Bellucci. Et puis vraiment, moi, ça m'a fait super plaisir de le voir, c'est Henri Guibé. Et franchement, c'est un vrai bonheur.
Ah oui, non, vraiment, j'étais extrêmement honoreux qu'il accepte de tourner avec nous. Souvent, pendant les projections, on entendait des « Ah, quel plaisir !» Et il s'est vraiment fait plaisir lui aussi, je crois. Il était content de retourner. Et puis, il apporte cette espèce de touche complètement décalée, là aussi, du monsieur qui se souvient de ses amours passés. Enfin, vraiment, c'était un grand, grand, grand plaisir. Henri Guibé, qui en plus, je crois qu'il a 85 ans et il a toujours une gaieté, une joie, les yeux qui pétillent. J'ai vraiment un plaisir de travailler avec lui, quoi.
Ça, c'est génial. Alors, on va dire les 20 premières minutes du film sont vraiment un vase clos à l'intérieur de Sécurité Ascenseur. Pour le coup, c'est, je vais pas dire un monologue, mais c'est un dialogue par téléphone où là, l'écran est vraiment tout le temps sur Victor, puisqu'il est quasiment sur 100% en plus des scènes. Est-ce que c'est compliqué par moment quand on a toutes ces tirades, quand on a énormément de dialogues comme ça, Victor? Comment on fait? Est-ce qu'on trouve des parades pour arriver à s'accaparer le texte assez rapidement?
C'est vrai que c'est un film de texte, hein. Très clairement, on pouvait pas tricher avec. Faut bosser, c'est tout, y a pas de secret. Faut bosser et voilà. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une partenaire plus que formidable. C'était pas un monologue parce que j'avais ses répliques, elle était en direct dans mon oreille vraiment, donc c'était un vrai dialogue avec elle. Donc voilà, il suffisait de l'écouter et puis de se laisser porter et voilà.
J'insiste un tout petit peu parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup de textes et que Victor, c'était un plaisir fou de travailler avec lui parce que déjà il avait le personnage dès le départ, toutes les intonations, mais aussi le débit, c'est-à-dire que enfin c'était au cordeau quoi, et ça c'est une aide pour un premier film, en plus quand on arrive quand même un peu impressionné sur un plateau, une aide extraordinaire. Et aussi j'insiste, en effet le Galatea était là en fait dans un petit studio, et j'ai beaucoup insisté pour que ce soit le cas, parce qu'il faut que ça vive en fait, il faut que à chaque prise, ce soit quelque chose de différent qui permette à Victor de rebondir différemment, d'essayer des choses différemment. Et ça, Galatea était génial aussi. Donc c'était un plaisir vraiment de travailler avec ces deux jeunes comédiens, quoi.
Elle et lui, et le reste du monde, on a lui en tout cas qui est avec nous aujourd'hui. Et Emmanuel, vous êtes la réalisatrice de ce film, on écoute la bande-annonce, on revient juste après avec vous, on écoute.
On est dimanche soir, c'est la Saint-Valentin, il est vers 2h du matin, il y a cette femme qui m'appelle et elle est coincée dans un ascenseur et moi j'arrive à trouver personne pour la dépanner.
Pour inventer des histoires, t'es balèze toi.
Sécurité ascenseur, Marco à votre service.
Oui, je suis bloquée. Je vais aller chez quelqu'un. On n'est plus ensemble, mais on n'est pas encore séparés. Il n'est pas encore au courant. Allô ?
Le technicien a rappelé, il est sur le coup, hein. Il va arriver.
J'ai la tête qui tourne et je vois des poissons partout. Comme dans les fiches pas, vous voyez ce que c'est ? Il y en a un près de chez mon futur ex.
Le superviseur, il m'a demandé de venir vous désincarcérer.
Ah, vous me rassurez.
J'arrive.
Ah, attendez, l'ascenseur s'est remis en marche. Ça fonctionne ?
Elle et lui et le reste du monde, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine. On a Emmanuel Belroadski qui est avec nous, la réalisatrice, et Victor Belmondo qui sont là tous les deux avec nous pour nous en parler. Est-ce qu'il y a une scène particulière, en tout cas qui vous a marqué tous les deux peut-être à la réalisation déjà ? Est-ce qu'il y a une scène qui vous a un peu chamboulé, qui a été un peu magique à tourner, Emmanuel ?
Il y a toujours des choses magiques qui se passent. Toute la première partie, en effet, qui était la partie qui me faisait le plus peur à moi, parce qu'il faut tenir en fait, faut tenir pendant quand même 20 minutes. J'ai pu vraiment m'appuyer en fait sur Victor, qui encore une fois était arrivé en ayant beaucoup travaillé, mais de manière assez mystérieuse. Hein. Je sais pas derrière, il raconte pas sa cuisine, hein, mais en tout cas il était là, il était parfait.
Les magiciens ne dévoilent jamais leur tour.
Voilà, exactement. Et puis non, il y a aussi des petits miracles en fait de tournage. Moi, la scène, une scène au commissariat où Marco est là et avec deux lascars, où soudain il se passe une chose. Je vais pas dévoiler, mais il y a une espèce de une synchronicité qui était parfaite et ça pouvait pas être mieux. Ça, c'était vraiment un petit miracle. Et aussi, Galatea qui a une scène assez émouvante en fait dans le film. Et là, j'avoue que sur le tournage, c'était assez bouleversant.
Le commissariat aussi ?
Exactement. On va pas la
je m'en doutais un petit peu. Victor, pour toi ?
Moi, sur le tournage, je l'ai pas vu, mais la scène d'émotion de Galatea dans le film, je la trouve particulièrement bouleversante. Et sinon, toutes les scènes du commissariat, je les trouve vraiment hilarantes. Tous les personnages, que ce soit les flics ou...
Cédric Marambert, il est excellent aussi.
Les flics ou les lascars, franchement, ils m'ont vachement fait rire sur le plateau et ils me font encore rire quand je vois le film. Ouais.
Emmanuel, un premier film, on imagine la difficulté que ça peut être à monter. Depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet ?
J'ose pas le dire.
Alors, j'ai eu 8 ans. Est-ce que là, c'est battu ou pas ?
En fait, c'est par intermittence. On a commencé à écrire avec Jérôme en 2015.
Et on est à 9 là.
Ouais. Ensuite, il y a eu plusieurs moments en fait, différents. On a fait un court-métrage. C'est Jérôme qui l'a réalisé, le court-métrage. Et ensuite, on s'est dit, il faut qu'on fasse un long. Et tout a été chamboulé, basculé. C'était pas forcément même prévu comme ça. Mais ouais, c'est très très long. C'est très long et il faut tenir. Il faut surtout tenir son cap aussi, parce que l'écriture d'un scénario, ça veut dire aussi beaucoup beaucoup de personnes qui lisent et qui ont des retours à faire. Et il faut savoir tenir son cap, c'est-à-dire savoir ce que nous on veut garder, ce qu'on est prêt à changer, qui peut-être même améliore le
compromis.
Les compromis, exactement. Et puis ensuite, il y a toute la phase de recherche de financement, quoi. On avait ce producteur qui vraiment était là et qui nous a soutenus. Mais la phase de financement, elle est longue. Elle peut durer deux
années.
Et oui, exactement. Donc, il faut vraiment avoir l'envie chevillée au corps. Sinon, en fait, on baisse les bras.
Mais faut rien lâcher.
Faut rien lâcher. Tout est compliqué. À chaque stade, il peut vous arriver un truc qui fait que ça capote. Donc, il faut vraiment être armé, quoi. Mais le désir est plus fort, hein. Et après, une fois qu'on est lancé, une fois qu'on est sur le plateau, une fois qu'on est là, ça devient un truc magique. Stressant, mais magique, vraiment.
Victor, comment on pourrait le définir, Marco, vu par Victor Belmondo ?
Marco, c'est un personnage très innocent. dans le bon sens du terme. C'est un personnage bienveillant, qui veut bien faire, qui est un peu dans la lune, un peu maladroit.
T'as dit oui tout de suite, Victor, face à un... au scénario, face à la détermination peut-être aussi du travail d'Emmanuel.
Oui, bien sûr, la question s'est pas posée dès la lecture, ensuite la rencontre avec Emmanuel. J'ai dit oui tout de suite.
Les projets pour 2024 pour toi?
Ouais, alors il y a celui-là qui sort, il y a le film de Gaël Morel avec Théo Christine et Lou Lampros qui va sortir aussi. Il y a la saison 2 de Miskina et puis des
tournages
sur Prime et puis des tournages à venir là en 2024, ouais.
On n'a pas fini, c'est bien de te voir, c'est cool, tu reviens quand tu veux en tout cas. Emmanuel, on pense déjà à la suite ou pas? Parce que la film va appartenir au public dans 2 jours, donc j'imagine l'anxiété aussi qui se dégage. Mais est-ce qu'on pense déjà à la suite?
Je pense qu'il faut penser à la suite très très vite en fait pour...
remonter très vite à cheval.
Exactement. Oui, je suis sur... J'écris des... Oui, je suis en écriture, comme on dit, sur plusieurs projets, mais là, pour l'instant, je ne peux pas trop dévoiler, c'est encore un peu tôt.
Elle et lui, et le reste du monde, c'est votre film Coup de cœur ciné cette semaine. On va se quitter avec un extrait. Merci Emmanuel, merci Victor d'avoir été avec nous. En tout cas, pour en parler, à très vite, merci.
Merci beaucoup.
Merci, à la prochaine.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Ça sera l'événement avec de nombreux invités, mais surtout aussi une partie d'émission depuis le Festival des Héros du Cinéma au Cap d'Agde. Et puis en fin d'émission, nous aurons l'immense honneur de recevoir Danny Boone et Laurence Arnay pour la sortie de La Famille Hendrix. Vous l'avez compris, ça s'annonce événement déjà.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de La Quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Partagez un moment convivial et chaleureux en écoutant Chute, on écoute la télé avec Iruac, votre marque de boucherie charcuterie basque qui fête ses 50 ans de savoir-faire avec ses recettes savoureuses et typiques du Pays basque et du Sud-Ouest. Retrouvez vos produits Iruac dans vos grandes surfaces. Toutes les infos sur iruac.fr.